Elisabeth, bonjour.
Bonjour Lionel.
Merci de m'accueillir une nouvelle fois chez vous.
Mais merci de m'inviter.
Alors aujourd'hui, si vous l'acceptez, on peut faire une interview spéciale vocation. Est-ce que ça vous tente?
A priori, oui, spéciale vocation, même si le mot vocation veut dire ce qu'il veut dire, il n'a pas besoin d'être développé, mais on va quand même essayer de tourner autour.
Alors, vous auriez utilisé quel mot à la place de vocation? Vous auriez utilisé quel mot à la place de vocation?
Aucun. La vocation, c'est quelqu'un que vous portez en vous sans le savoir, puis un jour qui se réveille. Alors un jour, on ne sait pas l'âge, on ne sait pas l'année. On ne sait pas les circonstances, mais il y a déjà des signes précurseurs qui font que tout petit déjà, on s'aperçoit qu'on préfère ceci ou qu'on préfère cela. Alors, peut-on appeler ça vocation? C'est un peu tôt, mais on s'aperçoit qu'on a déjà une préférence. Et pour moi, le mot vocation, si vous voulez que je vous le définisse, c'est d'abord et avant tout préférence. Et après, quand on développe, vous vouez à quelque chose. C'est comme un vœu. C'est comme un. Je m'investis pour la vie dans quelque chose. Alors, quel qu'il soit, j'en sais rien.
Merci pour cette précision, c'est intéressant. Et alors, à partir de quel âge vous avez connu ces préférences?
Alors, c'est très curieux. À partir de quel âge? Il y avait des bruits de bottes dans l'air. J'habitais à Amiens déjà, pour notre malheur. Et j'étais très, très malade. Et ma chambre était au premier, mes frères et sœurs à l'école. Ma mère n'était pas très, très expansive et très, très. Comment dirais-je? C'est pas qu'elle ne nous aimait pas, mais elle était incapable de nous le démontrer. Bon, ma mère était infirmière de métier, infirmière laborantine. Et bon, moi, j'ai été couchée au premier étage dans la chambre des enfants. Et je ne voyais ma mère que pour les repas ou les piqûres. Le reste du temps, j'étais toute seule. Le temps était long, j'avais 4 ans. Le temps était d'une longueur parce qu'il est bien certain que vous avez remarqué que le temps n'est pas le même pour l'adulte que pour l'enfant. Du tout. Alors, heureusement, c'était la mode. Les murs étaient tapissés, ainsi que les sièges. Les murs, c'était du papier, les sièges, c'était du tissu, bien sûr, de toile de Jouy. C'était la grande, grande mode à l'époque. C'était Louis XV, ça représentait des petits personnages Louis XV. Des pastorales de préférence, berger, bergère, marquis, petite marquise, beaucoup de scènes champêtres. Et moi qui étais enfermée, je ne pouvais pas me lever, je ne pouvais pas marcher. Je m'ennuyais tellement que je passais mon temps à regarder les tapisseries de la chambre. Et puis dans ma tête, je me faisais des scènes. Quand je voyais un berger, une bergère ou des moutons blancs, ça extrapolait, j'allais plus loin, ça se transformait en histoire d'amour, en prince charmant, le prince qui épouse la bergère, parce que j'avais quand même 4 ans, j'étais quand même au courant de certaines choses. Et c'est comme ça. Alors, est-ce que je peux parler de vocation? Tout de suite, non. Je pense pas. Disons que c'était une façon pour moi de meubler le temps. Agréablement.
C'était un peu vos rêveries, votre échappatoire. C'était un peu vos rêveries, vos échappatoires.
Exactement. Heureusement, il y a eu ça. Bon, après, bon, mes frères rentraient de l'école, ils étaient très très gentils. Je me souviens qu'il m'apportait des bonbons et puis que je mettais au fond de mon lit. Et puis il me réclamait un bonbon, alors je plongeais, j'allais en chercher un, je leur en donnais un. On s'entendait très bien, on était une fratrie extraordinaire. Bon, alors après, comment est-ce devenu une vocation? Il y a eu cette foutue guerre. Et je fais une petite parenthèse, est-ce que j'ai le droit?
Vous avez tous les droits.
Merci. Récemment, on a interviewé au sujet du démantèlement de la jungle de Calais.
Absolument.
Et j'ai été prise vraiment... j'en avais presque les larmes aux yeux parce qu'il y a eu des interviews à n'en plus finir. Il y a les pour, il y a les contre, comme toujours. Et il y a une vieille dame plus âgée que moi, toute petite, toute courbée, qui marchait avec sa canne et qui a répondu, quand on lui demandait ce qu'elle en pensait, elle a répondu ce qu'il fallait répondre. On voit que vous n'avez pas connu la guerre. Et puis elle est partie, lentement. Mais elle a dit ça avec un ton, mais d'une telle tristesse, que ça m'a fait mal. Parce que moi, j'ai connu ça. Alors, il est certain que à la déclaration de guerre, en 39, j'avais 6 ans, ben, on n'était plus des enfants. Parce que déjà, depuis un certain temps, on en parlait des bruits de bottes. On était parfaitement au courant qu'il y avait des camps en Allemagne, pas des camps de concentration, c'était les Allemands qui étaient les communistes, qui étaient internés en... Quand on veut, on sait, hein. Et j'entendais tout le temps parler de ça, Et dans nos âmes d'enfants, ça nous faisait peur. Parce que c'était l'inconnu. Qu'est-ce que ça voulait dire, la guerre? On ne savait pas encore. Qu'est-ce que ça voulait dire? Et c'était tous les jours, Et ça allait même, parfois, même si ce n'est pas notre genre, ça allait même parfois jusqu'à la dispute entre mon père et sa sœur.
Vous aviez pas peur que les Allemands viennent prendre vos parents?
On avait peur de l'inconnu. Qu'est-ce que ça voulait dire, la guerre? On ne l'avait jamais vu, jamais vécu, on n'avait pas eu le temps à l'école d'en parler. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était cet inconnu qui menait nos parents presque... Je ne parle pas de papa, maman. Je parle de mon père et sa sœur qui s'adoraient jusqu'à la dispute. Et on ne comprenait pas pourquoi ce mot « guerre » a mené jusqu'à la dispute. Qu'est-ce que ça voulait dire, la guerre? Bon, après, on a vite compris, hein. Bon. Alors... on était à Amiens. Papa était, comme vous le savez, titulaire de chaire de physique médicale à la faculté de médecine. Et il avait en plus un doctorat de pharmacie, où il avait été d'abord pharmacien-chef de la Salpêtrière. Il aurait mieux fait d'y rester d'ailleurs. Bon, mais quand il a eu son doctorat, ex-cathédra, il y a eu un concours, il l'a passé, il l'a réussi. On s'y retrouvait à Amiens. Bon. Nous, gamins, vivant ce que je viens de vous raconter, tout à coup, on se trouve encerclés. Les Allemands débarquent, parce qu'ils ont fouté des traités. Hein. Le traité de neutralité avec la Belgique, ils s'en foutaient royalement. Ils ont traversé la Belgique. 8 jours après, ils étaient chez nous à Amiens. Ils ont foutu le feu à la ville. Et là, on a commencé, nous les enfants, à comprendre que c'était pas normal. Et on a eu très peur.
Est-ce que quelque part, vous êtes en train de me dire que vos préférences, durant cette période, elles ont été mises entre parenthèses?
Oui. Parce que ça tenait une telle place dans les conversations. Et puis j'étais retournée à l'école, j'étais guérie. Bon. J'avais mis entre parenthèses mes préférences, qui avaient d'ailleurs été au départ, je dirais pas imposées, mais j'avais pas le choix. pour pas mourir d'ennui, je regardais les petits bergers, les petites bergères. Hein? Bon. Et puis, alors, je vous passe les détails sur la guerre. Vous les connaissez aussi bien que moi. Non, pas aussi bien, mais vous les connaissez quand même. On s'est demandé qu'est-ce qui nous arrivait. Et là, nous avons passé toute la guerre à Amiens avec ce que vous voyez, vous supposez, etc. Mon père a été... Et il fallait partir. Alors nous sommes partis avec ma mère, tous les quatre enfants, et les quatre enfants en évacuation, chez mes grands-parents, qui habitaient en Andaye, la frontière espagnole, mais on avait oublié une chose. D'abord le voyage, sous la mitraille, et on avait oublié qu'arrivée à Andaye, eh ben, ma mère a été réquisitionnée pour aller soigner les blessés d'Espagne. C'était les séquelles de la guerre d'Espagne. Mmh. Et comme c'était son métier, elle avait été réquisitionnée. Et moi, j'ai été mise, mes parents, mes grands-parents ne pouvant pas accueillir tout le monde, j'ai été mise dans une famille d'accueil. Entre parenthèses, j'ai jamais reçu autant de gifles que là.
Ah ouais.
Oui, bon, je n'ai pas été heureuse du tout. Enfin bref, et puis je comprenais rien. Je comprenais rien. Pourquoi j'étais séparée de mes frères, de mes sœurs, de mon père, de ma mère.
Vous aviez quel âge ?
Pardon ?
Vous aviez quel âge à l'époque ?
Alors, 39, j'avais 6 ans. Nous sommes partis, j'avais 7 ans. Nous sommes partis à la fin de 39, 7-8 ans. Mais il n'y avait plus dans la chambre
les tapisseries,
papiers en toile de Jouy. Et là, ça a été... Et là, c'était pareil. On n'arrêtait pas de parler de la guerre. On n'arrêtait pas. Puis alors là, c'était deux guerres. Hein. C'était celle qui avait eu lieu un peu avant avec Franco. Et puis celle qui avait lieu avec Alfred, qui n'est pas de Musset, là. Bon. Ce dingue. Parce qu'il était dingue, hein, celui-là. Hein. Alors... Nous n'entendions parler que de cela. Donc, la place au rêve, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. C'était tout le temps autour de ça. Tout le temps, tout le temps. Alors, vous me demandez comment j'ai vraiment pris réalité de ma vocation. C'est peut-être pas une vocation. C'est peut-être une décision. C'était parce que, à la fin de la guerre, on en avait tellement vu. Je vous passe les détails, on est revenu à Amiens en 41 pour subir des bombardements et des bombardements. On passait notre temps dans les caves, on n'y voyait pas clair. Enfin bref, je vous passe les détails de la guerre. On en avait ras-le-bol. Mon frère aîné en avait ras-le-bol. Ma sœur qui suivait mon frère en avait ras-le-bol. Elisabeth qui est devant vous en avait ras-le-bol. Et le petit, là, le sculpteur, en avait ras-le-bol. De tout. Si bien que nous avons tous pris une décision. Alors, appelez ça comme vous voulez. Mon frère aîné est parti sur la mer. Il a fini d'ailleurs chef des équipages de la flotte. Entre parenthèses, avec des galons jusque-là. Ma sœur aînée est partie à la Terre de Feu. Je vous parle de ça il y a 60 ans. Il a fallu l'autorisation de l'ambassade de France. Elle était une des seules françaises à aller là-bas. Il n'y avait rien. C'est elle qui faisait la classe à ses gosses, qui découpait le bœuf quand il y en avait un, qu'on l'a amené au couteau, qui a appris à monter à cheval, qui a eu enfin, une vie elle aussi. Bon. Celui-ci, sculpture, pour être seul dans son atelier et avoir la paix. Et quant à moi, pourquoi, à cause de la toile de Jouy, je crois, j'ai choisi le théâtre. Parce que je m'étais rendu compte, et j'ai oublié de vous le dire, que les punitions chez nous, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme punition, même si nous étions des enfants très sages. Oui, ben, nous étions des enfants. Il nous arrivait de faire quand même quelques erreurs, quelques bêtises. La punition pour papa, c'était nous faire lire. Il nous enfermait dans une pièce, il nous imposait la lecture, l'auteur. Il nous donnait 3 jours pour lire le bouquin. Et au bout de 3 jours, il fallait rendre le bouquin avec le compte-rendu pour être sûr qu'on l'avait bien lu.
Excusez-moi, je me pose la question, comment vos préférences sont revenues? Comment vous les avez...
À force de lire, parce que à force de lire, papa nous a donné tout de suite, évidemment, les grands auteurs, Molière, n'en parlons pas, il nous a donné, mais les 3 grands qui pour moi comptent le plus, parce qu'ils résument tellement bien l'homme, la vie. Balzac, La vie bourgeoise parisienne. Maupassant, Le monde rural. Et Zola, Le monde ouvrier. Quand vous avez lu toute l'œuvre, hein, et nous l'avons lu toute l'œuvre, de ces 3-là, vous avez fait le tour de l'homme. Après, il y a les classiques, etc. C'est venu après, pendant mes études au conservatoire. Mais comme... j'ai été dressée, domptée à cette école, encore une fois, pour oublier tout ce que j'avais vu. Parce que j'en ai vu, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon père était chargé de la surveillance sanitaire de la ville d'Amiens. Il était chef de la défense passive. Et quand il y avait un bombardement, c'est lui qui allait ramasser les morts et les blessés. Et n'oubliez pas que ces salopards d'Allemands avaient les bombes à retardement, qui n'étaient jamais programmées de la même façon. Il y en a une qui pouvait éclater 10 minutes après, une autre 2 heures après. Donc il y avait un danger terrible à aller chercher les blessés et les morts. Et papa faisait ça. Et à chaque fois que je voyais partir mon père... je me disais, est-ce que je vais le revoir ou est-ce que je ne vais pas le revoir? Et il me souvient, et ça c'est un... pour moi c'est terrible. Il faut le dire, il faut quand même... à force de ramasser ça, il sentait tellement mauvais que je ne voulais jamais l'embrasser. Il sentait le mort, la poussière, le sang, le... j'ai vu ça. J'ai été élevée là-dedans, parce qu'il y avait, c'était une ruine à Amiens. Et nous habitions le laboratoire. Bon, parce que les Allemands avaient une peur terrible des épidémies. Il y avait le typhus, il y avait la diphtérie. La tuberculose est venue bien après. Bon, ou du moins, on ne le savait pas. Donc, mon père et ma mère travaillant sans arrêt au laboratoire... il n'y avait plus de toit, il n'y avait plus rien. Puisque, dit-on, Amiens a été la ville la plus démolie de France. Je ne dis pas la plus bombardée. Vous me suivez? La plus démolie. Il n'y avait plus rien. Donc, on vivait au laboratoire. Et moi, toujours pareil. Avoir ces spectacles, qui n'étaient pas beaux à voir, hein, parce que je peux vous dire que les morts, ils revenaient sur des brouettes. On ne nous donnait pas d'essence. Il n'y avait pas d'ambulance, il n'y avait rien. Hein. Hein. Moi, j'ai été bercée de ça. Alors, je me réfugiais dans les personnages que je lisais. Pour moi, c'était un autre monde que celui où, dans lequel je vivais vraiment. Où je ne voyais que des horreurs. Mais que des horreurs. Je me souviens qu'il n'y avait même pas de savon. Entre autres, c'est papa qui faisait du savon. Je ne sais pas comment il faisait. Il allait chercher des vers de terre, ça grésillait dans la poêle, il mettait je ne sais pas quoi, puis ça finissait en savon. Bon, c'était un savon, il faut dire, mais bon.
Donc, Elisabeth, vos prédispositions, elles sont réapparues après la guerre, j'imagine.
Voilà, exactement. On en avait tellement ras-le-bol. Mais ras-le-bol qu'on voulait une autre vie. Et on voulait fuir tout ça. Bon, moi, j'avais pas du tout envie d'aller à la Terre de Feu. Sur la mer, à l'époque, les femmes n'y allaient pas. La sculpture, je n'y connaissais rien. Et ça ne m'intéressait pas. Et j'ai voulu me réfugier dans les personnages, dans le théâtre, dans les pièces que j'avais lues, qui m'avaient plu et qui m'ont amené à en lire d'autres après. Et à partir de là, j'ai su que c'est ça que je voulais faire. Parce que, un, ça me permettait d'oublier ce que j'avais vu. Et deux, ça me permettait d'être Elisabeth. J'étais quelqu'un d'autre. J'étais, comme elle s'appelle, Madame de Rohan, dans le Lys de la Vallée, de Balzac. J'étais une autre, j'étais Podane. J'étais quelqu'un d'autre qu'Elisabeth, qui, pendant la guerre, n'a pas eu beaucoup de tendresse. Même si nos parents nous adoraient, hein, attention. C'est pas ce que je veux dire. Il n'y avait pas le temps. Il n'y avait pas le temps. Alors, c'est ce qui a déterminé, je pense. C'est pour ça qu'au début, je vous disais, c'est vocation, qu'est-ce que ça veut dire? J'étais pas vouée à faire ça. Ce sont les circonstances qui m'ont amenée à faire ce métier. Et je pense que ce doit être vrai ce que je dis, parce que même à mon âge, après avoir fait les deux, l'interprétation, gérer un théâtre toute seule, c'est pas marrant pour une femme. Hein.
Ah oui.
On m'en a mis des pots de banane sous les pieds. Hein. Parce que j'ai géré un théâtre toute seule. Et la pédagogie, eh bien, Lionel, je crois, on me dit que non, mais je me connais mieux que quiconque, je crois que je suis meilleure pédagogue qu'interprète.
Quand est-ce, bon, j'imagine que dans votre vie, vous avez eu plusieurs déclics.
Plusieurs ?
Déclics.
Éclipse ?
Déclics, des déclics.
Non.
Non ?
Ça a toujours été celui-là. Parce que j'avais tellement lu. Mais tellement.
Je voulais dire, en fait, il y a eu plusieurs événements dans votre vie qui ont fait que...
Jamais. Je n'ai jamais dévié. Jamais. De toute façon, je me souviens que... je n'ai jamais dévié. Je me souviens quand il a fallu dire à mon père, grand scientifique, unanimement... C'est lui qui a créé la protection civile. Hein.
D'accord.
C'est un grand bonhomme. Il était au comité consultatif des universités. Bon, quand il a fallu que j'aille lui dire « Papa, je veux être comédienne, je le reverrai blond comme sa blouse tachée d'acide », il y a eu un grand silence. Il m'a regardé ainsi que mon petit frère, toujours lâche. « Dis-lui que je vais être sculpteur. » Bon, alors j'ai dit « Nous voulons ceci, nous voulons cela ». Il y a eu un grand silence et papa a dit « Tel que je connais vos caractères, je ne vous ferai pas changer d'avis ». Alors, d'accord, mais j'y mets des conditions. Il y a mis des conditions draconiennes. Voilà. Pas le droit à l'échec, réussite du premier coup, et surtout se payer sa première année à Paris de sa poche. Il ne mettait pas un rond. Pourtant, il avait de l'argent. Hein. Alors, comme je voulais tellement vous demander si j'ai eu un déclic, jamais.
Donc, votre carrière, elle a commencé quand vous aviez 4 ans.
Oh oui. Grâce à la toile de Jouy. Sans la toile de Jouy et tous ces petits personnages, tous ces paysages champêtres, qu'est-ce que j'aurais fait? Mais qu'est-ce que j'aurais fait à part pleurer au fond de mon lit? Qu'est-ce que j'aurais fait? Là, je me suis fait du cinéma. Pourtant, je n'étais jamais allée au cinéma à 4 ans. Puis alors, à l'époque... Bon, mais il fallait que je tienne le coup parce que les journées étaient tellement longues et mes frères et sœurs ne rentraient pas déjeuner. Et maman, à part m'apporter le repas, je vous l'ai dit, faire les piqûres, elle n'avait pas le temps. Bon, elle n'a jamais eu le temps, de toute façon. Alors. Et qu'est-ce que j'aurais fait sans la toile de Jouy? C'est grâce à la toile de Jouy, au départ, qui m'a permis de faire une sorte de composition théâtrale. Et un rêve. Là, moi, la bergère, j'étais la princesse. J'avais 4 ans. Je n'allais pas dire que la bergère, j'étais la souillon. Forcément. La bergère, on a.
Du coup, je me pose une question. Je me dis, dans votre vie, dans votre carrière, bon, j'aime pas trop ce mot-là, mais dans votre carrière, est-ce que vous avez écrit?
Non. Je n'ai pas écrit sur ma carrière, ni sur celle de mes frères et sœurs, qui sont quand même, qui sortent de l'ordinaire aussi.
Je veux dire, est-ce que vous avez écrit une scène?
Si j'ai écrit une scène, non. Mais j'étais très très bonne en français à l'époque. J'étais si bonne en français que personne ne voulait croire que c'est moi qui écrivais. Et un beau jour, j'en ai eu tellement marre que j'ai dit merde au professeur de français et que je suis partie. Et je suis partie en me disant, je vais prendre une raclée en rentrant. Et mon père, qui m'a adoré et qui m'avait très très bien vu, m'a dit, t'as bien fait.
Sinon, il vous soutenait beaucoup, votre père?
Oui, papa m'aimait beaucoup parce que d'abord, j'étais une enfant très souffreteuse. Comme quoi, ça conserve d'être souffreteux. Donc j'ai toujours été suivie par des médecins. Et papa avait eu un rêve qu'il n'avait pas pu réaliser. Il voulait être violoniste. Il jouait remarquablement du violon. Il avait un violon de la chapelle de Versailles, s'il vous plaît, un archet signé. Bon. Et tous les soirs, jusqu'à la déclaration de guerre, nous avons eu le droit au quatuor à cordes à la maison avec ses confrères. Alors la musique, j'en étais saturée. Mais j'adorais. Et je dois dire que la musique a été pour beaucoup, beaucoup dans mon choix de comédienne. Parce que la musique ajoute une dimension supplémentaire au texte. Même si la note, une fois qu'elle est faite, on ne peut plus y toucher. Tandis que le mot, on peut le transformer. Mais malgré cela, la musique apporte une dimension supplémentaire au texte. Je pense que c'est inséparable. Vous prenez le Don Juan de Mozart et le Don Juan de Molière, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc, baigné de musique, je pense que ça a fortifié ce besoin d'être quelqu'un d'autre. Autre qu'une gamine malade à qui on faisait tout le temps des piqûres et qui ne pouvait pas aller en classe faire l'idiote avec ses copines. C'est ça. Je pense que c'est ça. Maintenant, vous parlez de vocation. Je ne suis pas sûre que ça soit une. Je pense que c'était une nécessité. Et pour moi, c'était la seule. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre?
Bonne question. Ben, pédagogue.
Un pédagogue. Et j'adore la pédagogie.
Je me pose une question. Est-ce que, durant toutes ces années, il y a une pièce qui vous a particulièrement marqué, que vous avez jouée?
Oui. Elle m'a marqué. Non pas qu'elle tienne un rang supérieur dans le théâtre français, mais elle m'a marquée parce que j'y ai joué tous les rôles. J'ai commencé par le rôle de l'enfant, j'ai commencé par le rôle de l'amoureuse, j'ai continué, après j'ai continué par le rôle de la mère et j'ai fini par le rôle de la grand-mère. J'ai eu cette chance dans ma vie, pour cette pièce, de jouer les 4 rôles de femme. à diverses époques de mon âge, évidemment.
Ça doit être très excitant à faire.
C'était formidable. C'était formidable. D'autant plus que c'était accompagné également d'une musique de scène. C'est pas une pièce dont on va faire. C'était tout simplement l'Arlésienne d'Alphonse Daudet. J'ai commencé par l'Innocent, qui n'était pas si facile que ça à jouer. Après, j'ai fait Vivette, la jeune amoureuse. Après, j'ai fait un des plus beaux rôles que je connais, Rose Mamaille. Être mère, c'est l'enfer. Ça, c'est un des plus beaux monologues que je connaisse. Et après, j'ai fait La Renaude, celle qui revoit le berger qu'elle avait aimé dans sa jeunesse et qu'elle n'avait pas pu épouser parce qu'elle était fille de ferme, de patron, et que lui était un simple berger, Balthazar. Il se retrouve, quand ils sont vieux, qu'ils ont, si j'ose dire, un pied dans la tombe. Et là, il y a une scène aussi extraordinaire que j'ai jouée. Quand je le retrouve, c'est une pièce magnifique à jouer. C'est Gérard, ne vous inquiétez pas, il a les clés. Voilà, alors, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si c'est une vocation. Je ne sais pas. Mais je n'ai jamais dévié d'un pouce. Parce que mes lectures me permettaient d'oublier et d'être quelqu'un d'autre.
Ça y est.
Entrez, Gérard, entrez.
Ben, je vous remercie.
Ben, il n'y a pas de quoi. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et que j'ai été intéressante.
Vous êtes parfaite.
Oh non, parfait. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait.
Bon, c'était un compliment.
Pardon ?
C'était juste un compliment.
Oui, je sais, je le prends comme ça. Je connais mes défauts, hein, croyez-moi. Vous connaissez ?
Je crois que oui, on s'est déjà vu une fois.